Bonjour, au micro, Ilan Rosanquier qui est heureux de vous présenter un nouveau numéro de Chronique pour la paix. Samedi dernier, en Israël, des dizaines de milliers d'Israéliens sont descendus dans la rue une nouvelle fois, pour la 39e semaine consécutive, pour protester contre le putsch judiciaire. Ils étaient à Tel Aviv, près de 85 000, dans les principales villes et dans des dizaines et des dizaines de lieux disséminés sur l'ensemble du pays. Cependant, malgré l'ampleur de cette contestation citoyenne, il y a eu moins de monde cette fois-là que les fois précédentes. Et donc, en ce début d'année, on peut se poser la question, est-ce que ce fléchissement ne signifie-t-il pas qu'on en est un peu au début de la fin de cette contestation, ou bien au contraire, il s'agit d'une pause, d'un quelque chose de passager, et on assistera sous peu à une reprise de cette contestation sans précédent dans le pays et même à l'échelle internationale. Pour répondre à cette question, il y a bien d'autres encore, et plus généralement pour faire un peu le point sur cette contestation, cette opposition populaire au changement de régime que veut initier la coalition gouvernementale, j'ai le plaisir d'avoir au téléphone Shana Orlik. Shana est une franco-israélienne, ancienne membre du mouvement Shomer HaTzair, qui a fait son alliance en Israël il y a 10 ans maintenant, et qui est très investie dans la vie politique israélienne. Elle a été candidate aux dernières élections législatives sur la liste du Meretz et elle a été conseillère ministérielle auprès de Yair Golan, qui était le vice-ministre chargé de l'économie au nom du Meretz dans le cadre du gouvernement Bennett-Lapid. Shana, vous m'entendez ?
Oui, bonjour.
Bonjour Shana. Quelque chose à ajouter à la présentation que j'ai faite ?
Non, c'est parfait.
Merci. Bon, donc je suppose que vous avez entendu la question que j'ai posée. Est-ce que ce fléchissement dans la participation aux dernières manifestations de samedi dernier, est-ce que c'est, à votre avis, le signe d'un fléchissement temporaire ou quelque chose de plus profond qui marque un peu un essoufflement de la contestation ? Comment voyez-vous les choses ?
Alors, pour moi, c'est clairement juste une pause, en fait. J'aime bien comparer, en fait, cette période dans laquelle on est, qui est la période des fêtes de Tishri et où les Israéliens partent beaucoup en vacances, comme le mois d'août en France. Alors, imaginez un mouvement de contestation, la deuxième quinzaine d'août, ça serait un peu plat. Et ben voilà, c'est un peu la même chose. Moi, je ne suis pas du tout inquiète. Je pense vraiment qu'on est sur un marathon pour sauver Israël. Et dans ce marathon, il y a des phases où il faut reprendre un peu son souffle. Je le sens même au niveau personnel. Moi, j'étais même aux manifs un tout petit peu. Juste après les élections, il y avait des manifs qui étaient que de gauche avant que le mouvement social commence. Donc moi, ça fait 42 semaines et pas 39 que je suis aux manifs. Et on le sent bien. On est fatigué. Ça demande énormément. On a changé nos vies. En fait, on va 1, 2, 3 fois par semaine manifester. On est très inquiet. Et du coup, je pense que là, c'est vraiment la période de l'année en Israël où les ministères, les administrations sont fermées, les gens partent en vacances. Et donc, c'est juste
une pause, oui. Et il faut signaler actuellement que la Knesset est en congé. Il n'y a pas de session parlementaire. Et donc, les motifs de mobilisation et de s'opposer à tel ou tel projet de loi, pour l'instant, ne sont pas d'actualité. Ben c'est donc une bonne nouvelle. Et donc, puisqu'il s'agit simplement d'une pause, on peut peut-être profiter justement de cette pause et un peu de cette tradition qu'on a à Rosh Hashanah de revenir un petit peu sur ce qui s'est passé au cours de l'année écoulée, de faire une espèce de bilan, du moins un point provisoire, sur la contestation et donc comment on pourrait identifier, résumer. On va pas être original, on va parler des acquis, des succès, on va parler un peu des, des points faibles et puis des principaux défis qui attendent cette contestation dans les semaines à venir. Alors, concernant les acquis, qu'est-ce que vous pourriez mentionner s'il y a des choses à mentionner, ce qui me semble bien entendu être le cas?
Il y en a beaucoup des acquis. Je pense que la première chose qui est très importante à mes yeux, c'est déjà le fait que ce putsch judiciaire qui contient plus de 250 lois, projets de loi, n'a réussi à passer qu'une seule, un seul projet de loi en première lecture. Donc ça, en 9 mois où la Knesset, le Parlement était actif, travaillait, avait les comités, la possibilité 3 fois par semaine de faire passer cette réforme, ce changement de régime, ils n'ont pas réussi. Mmh. Et ça, c'est un acquis, c'est une victoire qu'au quotidien, il faut célébrer.
Oui, c'est effectivement quelque chose de très important, me semble-t-il, par rapport à ceux qui se disent, qui se posent la question, oui, une manifestation, à quoi ça sert, les choses se jouent au Parlement, tout ça, c'est un petit peu du temps perdu. Là, on voit le rôle de frein, d'empêcheur de tourner en rond qui a joué la contestation, et c'est quelque chose d'assez remarquable.
C'est quelque chose de remarquable et de jamais vu, je pense, on peut se le dire, au niveau des pays qui ont malheureusement subi des processus comme ça, la Turquie, la Pologne, la Hongrie. C'est cette partie, en fait, de l'histoire qu'on est en train de décrire, où pendant 9 mois, et ça va continuer, on empêche un régime dictatorial de se mettre en place. C'est quelque chose, je trouve, de très fort et aussi de très émouvant de voir un peuple, et c'est le deuxième acquis que je voulais mentionner, c'est vraiment, c'est un peuple qui se réveille, c'est l'éveil d'un peuple qui découvre, en fait, qui redécouvre, je pense qu'en ayant grandi en France, le sujet de la citoyenneté est très présent dans l'identité française. En Israël, on a l'identité juive, l'identité sioniste, on a d'autres identités, et le sujet de la démocratie, de la citoyenneté, c'est pas un sujet qui est au sein des débats politiques. Et là, d'un seul coup, en fait, on remet en question, on pose des questions fondamentales sur la nature de notre État, sur la nature du judaïsme de l'État d'Israël et sur quel pays, quelle société on veut être. Et c'est une... vous savez, en politique israélienne, c'est très souvent les sujets de sécurité qui prennent le dessus, évidemment. Et là, je pense qu'on a un éveil citoyen qui permet, en fait, d'aborder de nouveaux sujets qui étaient peut-être réservés plus à la gauche dans le passé, qui sont des sujets économiques, des sujets sur les relations avec les Palestiniens, des sujets sur la religion, la séparation de l'État et de la religion, la place de la religion, et aussi, bien sûr, toute la question des énormes budgets qui sont investis dans la société des ultra-orthodoxes, payés par les taxes qui sont payées par les laïcs. Donc toute cette question-là de pouvoir et d'argent, ça remet un peu les choses à zéro. On se retrouve à se poser d'autres questions qu'on ne s'était vraiment pas posées depuis la création de l'État d'Israël.
Alors, vous avez parlé de la mobilisation d'un peuple qui se met en marche. Peut-être parmi les points faibles, entre guillemets, ou ceux dans lesquels pour lesquels le succès n'est pas complet, c'est qu'on peut se poser la question, s'agit-il du peuple dans son entier ou du peuple juif, parce que on a bien vu qu'il y a toute une partie de la population, des minorités entre guillemets, en particulier la population arabe, qui a été sinon totalement absente, du moins avec une très faible participation dans ce mouvement. Alors, au-delà des explications qu'on peut trouver, est-ce que quelque part c'est pas la marque, sinon d'un échec, en tous les cas, de quelque chose qui s'y rapproche?
Écoutez, sur ce sujet-là, moi, je suis plutôt pragmatique. C'est-à-dire que, évidemment, que j'aimerais que toute la société israélienne se mobilise, mais on ne peut pas faire abstraction de la réalité, du fait que la société arabe... J'ai été responsable du dossier de l'économie de la société arabe au ministère de l'économie, c'est une société qui vit en parallèle de la société juive, avec des possibilités d'intégration, d'inclusion, beaucoup de possibilités, mais ce sont deux sociétés qui vivent en quelque sorte en parallèle. Et du coup, je dois dire que je n'avais pas non plus une attente particulière de voir la société arabe se mobiliser, sachant qu'il y a eu aussi, je le rappelle, la loi État-nation qui vient aussi mettre déjurer en fait la distinction entre un citoyen juif et arabe, ou en tout cas non-juif. Donc, je peux vous dire qu'aux manifestations, beaucoup dans le Nord, mais aussi même à Tel Aviv, on voit des drapeaux de la minorité druze qui sont présents. On voit des manifestations locales, par exemple à Nazareth, on a une femme qui s'était présentée sur la liste, une candidate au parti Meretz qui vient de Nazareth, qui elle est avocate et organise les manifestations à Nazareth, donc dans la ville arabe. Donc on a quand même des exemples de à quel point en fait la société arabe peut s'engager. Mais il est vrai que ce n'est pas la réalité. Et je dois dire que ce sont des sujets tellement fondamentaux qui viennent toucher à l'identité du pays, à l'identité du sionisme et à la définition de quel État juif Israël sera à l'avenir, que je pense que c'est des sujets, on le voit, qui doivent être vraiment débattus, traités et résolus entre juifs, parce qu'il y a déjà, comme vous le savez, suffisamment d'opinions différentes.
Tout à fait. Et l'autre point sur lequel on peut s'interroger sur une certaine faiblesse, on a déjà eu l'occasion d'en parler à ce micro, c'est la question de la prise en compte de l'occupation comme phénomène qui, quelque part, a accéléré ce processus de droitisation de la société israélienne. Alors on a vu qu'au fil du temps, la question de l'occupation, au départ, elle était pratiquement totalement absente. Ensuite, elle a été un petit peu présente par intermittence. Est-ce que quelque part, c'est pas quelque chose, on pourra pas longtemps éviter cet éléphant qui est dans la pièce et dont personne ne veut parler?
Je pense qu'on peut déjà plus l'éviter, et c'est à mes yeux une bonne chose. Quand on regarde la situation dans laquelle on est, on voit vraiment que ce gouvernement, qui est le plus extrémiste qu'est connu Israël, en fait, il n'est pas seulement extrémiste dans ses idées. On a des gens qui ont été condamnés pour soutien au terrorisme juif, pour notre ministère des Finances a quand même été retrouvé avec quelques centaines de litres d'essence dans sa voiture, et avec des plans d'attentats contre des villages palestiniens. On a quand même des gens qui sont vraiment l'équivalent. Je me permets de donner l'équivalent parce que ça permet aussi peut-être de mieux comprendre l'équivalent du BUD au sein du gouvernement, avec des théories de suprématie juive. Donc on est vraiment sur un narratif messianique qui va bien au-delà de la gauche et de la droite. Et donc en fait, ce qu'on comprend, et on le voit au sein des manifestations, les gens commencent à comprendre en fait le lien. Pourquoi cette réforme? Pourquoi maintenant? Pourquoi après que pendant 20 ans, 15 ans, Netanyahou ait gardé Yariv Levin bien en bas de la liste du Likoud? Pourquoi d'un seul coup on le retrouve ministre de la Justice? Et donc du coup, en fait, la question, c'est que en fait, tant qu'on a la Cour suprême qui vient protéger les droits de l'homme et les droits et l'égalité, etc., et ben, un gouvernement d'extrême droite ne peut pas aller à l'encontre, voler des terres palestiniennes, aller à l'encontre, faire des sortes de pogroms, de brûler des voitures, des maisons dans des villages palestiniens. Et donc, la Cour suprême devient l'ennemi, en fait, de ce projet messianique du Grand Israël. Vous avez eu l'épisode à Paris de Smotrich qui fait son discours avec la carte du Grand Israël.
Du Grand Israël.
Qui a failli recréer un conflit avec la Jordanie, d'ailleurs, je le rappelle, un conflit diplomatique. Donc on est face à des extrémistes, et la lumière au bout du tunnel, pour moi, c'est un sondage, une étude qui a été faite par l'organisme Mitvin, qui est un organisme très sérieux de recherche qui a publié qu'en août, c'était la première fois qu'il y a une majorité dans la société israélienne qui voit un lien clair entre le coût, la réforme juridique et l'occupation. Et ça, pour moi, c'est vraiment la lumière au bout du tunnel, c'est-à-dire que les gens, la société israélienne de gauche comme de droite, se rassemblent autour de valeurs de démocratie et comprennent petit à petit qu'il y a ici des intérêts qui sont bien au-delà de ce qu'on leur avait promis. Et le sujet de l'occupation, voilà, quand on crie pendant 9 mois « démocratie, démocratie, démocratie », on se commence à se poser aussi au bout d'un moment la question de la démocratie pour qui ?
Pour qui ?
Et il faut trouver une réponse. Et la réponse, elle est très souvent que la démocratie ne peut pas s'arrêter là où il y avait la ligne verte. C'est soit démocratie pour tout le monde, soit c'est pas
démocratie pour personne. Oui.
Voilà.
Et quand on voit effectivement quelqu'un comme Edgar Carret qui a écrit récemment que il craignait qu'Israël occupe les territoires, c'était son appréhension, sa peur, et il constate maintenant que ce sont les territoires qui occupent Israël. Et quand on voit des personnalités telles que lui reprendre des slogans qui étaient ceux de la gauche extrême, entre guillemets, on voit qu'il y a quand même une évolution, même si on peut s'interroger sur le rythme de cette évolution.
Autre point... si je peux rajouter, oui, juste par rapport à ce qui s'est passé aux événements qui se sont passés à Yom Kippour, à Tel Aviv, pour moi, c'est exactement ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire on a des groupes qui se définissent eux-mêmes comme fascistes dans le sens de la suprématie juive, dans le sens de planifier comment développer le Grand Israël, etc., qui viennent au cœur de Tel Aviv, non seulement prendre des appartements, vivre à Tel Aviv pour essayer de convaincre le plus en plus de personnes, mais qui viennent de façon violente empêcher des prières, empêcher des traditions de laïcs et religieux qui prient ensemble sur la place publique et qui viennent en fait forcer une vision vraiment archaïque, extrémiste
et théocratique du judaïsme.
Tout à fait. Et on le voit, et c'est le cœur de Tel Aviv, alors que on se souvient, il y a encore quelques mois, il disait « oui, on fait ce qu'on veut chez nous, vous faites ce que vous voulez chez vous ». Et on se rend compte que c'est pas comme ça que ça marche. Un courant fanatique comme ça, qui a un projet de théocratie, de dictature, il ne s'arrêtera pas parce que c'est Tel Aviv ou parce qu'on a dépassé la ligne verte de ce côté-là ou de l'autre.
Mais effectivement, ils sont habitués à ce que dans les territoires occupés, ce qui était aux autres est à nous. Et donc, ils transfèrent la même chose maintenant de l'autre côté de la ligne verte en Israël. Ce qui est aux laïcs est à nous. Mm-hmm. Et donc, ils font un peu du trotskisme à l'envers en faisant de l'entrisme, en venant s'implanter dans des colonies, dans des milieux laïcs pour essayer de provoquer un retour à la religion et avec une conception plutôt rétrograde et fermée du judaïsme. Ce qui a un effet positif, c'est que ça a donné l'occasion à des religieux, y compris des religieux orthodoxes, à prendre des positions publiques contre cette conception rétrograde du judaïsme. Samedi dernier, à Jérusalem, le rabbin Benny Lao a pris la parole pour la première fois. Et il a expliqué qu'il ne pouvait plus se taire, si jusqu'à présent il avait refusé de prendre la parole, il ne pouvait plus se taire quand il voit des ligueurs du sionisme religieux soutenir des assassins de Palestiniens et autres. C'est trop pour lui, pour qu'il puisse rester silencieux plus longtemps.
Autre point et ça remet en question aussi les relations avec la diaspora, je pense. C'est aussi ça le grand danger. D'une diaspora qui est progressive, qui est libérale et qui ne se retrouvera pas dans un Israël qui tomberait de ce côté-là.
Exactement. Autre point que je voudrais aborder avec vous, c'est la question du relais politique de cette contestation. Le fait qu'il y ait des manifestations, d'une ampleur sans précédent, c'est bien, mais on se pose la question en disant que la politique ne se fait pas dans la rue, ou alors ça pose quand même des problèmes. Et donc, comment passer de la contestation citoyenne dans les rues et rentrer dans le jeu politique traditionnel ? Est-ce qu'il faut créer de nouveaux partis ? Est-ce que... comment cette contestation peut-elle se traduire politiquement ?
Écoutez, ça fait plusieurs mois que je travaille sur ce dossier avec une très grande angoisse.
On va, la, Voilà terminologie de conseillère technique ministérielle. Une chemise avec des dossiers urgents.
Parce que je pense que c'est une question fondamentale. En fait, on a deux exemples. On a l'exemple de 2011, qui était à l'époque la plus grande protestation en Israël, le plus grand mouvement de protestation.
C'était ce qu'on appelait le mouvement des tentes.
Tout à fait, avec vraiment une réflexion économique et sociale, et qui n'a abouti à aucune construction de pouvoir, enfin de renforcement de pouvoir politique, de force politique, et avec vraiment deux leaders de ce mouvement qui se sont retrouvés députés, Itzik Shmouli et Sam Shafir, au Parlement. Donc avec en fait des millions de personnes qui sont dans les rues et deux représentants à la Knesset et aucun maintien des valeurs, des idées, de la puissance des demandes de la rue au sein du Parlement. Et donc ça, c'est une erreur qu'il faut absolument éviter. Et on entend des rumeurs qu'il va y avoir un parti de leaders de la protestation qui vont former un nouveau parti. Maintenant, moi, je peux vous dire, j'ai la chance d'avoir pris plusieurs fois des cafés avec pas mal de leaders du mouvement. Et je pense que ce sont des gens qui, en fait, sont des gens qui ne sont pas des hommes et femmes politiques et qui se sont réveillés dans leur quotidien et qui sont venus défendre le pays. Mais ce serait une grave erreur que de transformer en fait ce leadership citoyen en entrée de ces gens-là en politique uniquement. Je pense que ça va être le cas, c'est quelque chose de positif d'avoir du renouveau, mais ce sont des gens qui, en fait, au final, malgré ce que Netanyahou essaye de nous faire croire que c'est un mouvement de protestation de gauche, ce sont des gens qui sont plutôt du centre et de la droite, en fait.
C'est clair, l'ampleur du mouvement le démontre. Si la gauche était capable de réunir 300 000 personnes dans la rue pendant 40 semaines, ça se serait manifesté au Parlement. Il faut voir multiplier pour avoir le nombre de manifestants à l'échelle française par 8 ou par 9. Donc 300 000, 400 000 personnes, c'est entre 2 et 3 millions de citoyens en France. On voit l'ampleur. Mais alors comment se fait-il que la gauche, entre guillemets, le Meretz, un peu plus que le parti Avoda, qui est en pleine déconfiture dans les sondages, qui ne passe même pas le seuil d'éligibilité. Bon, c'est vrai que les sondages ne sont que des sondages. Est-ce qu'il se passe quelque chose de ce côté-là pour se réorganiser, pour mieux s'articuler avec les préoccupations des citoyens ou les partis, y compris les partis centristes, chacun essayant d'exploiter la contestation pour son petit jeu politique interne, mais finalement sans véritablement se remettre en cause?
Alors c'est très intéressant ce qui se passe. Au final, je vais commencer par le centre en fait. Donc Yair Lapid et Benny Gantz, les deux partis de centre, centre gauche, centre droite, ça dépend par où, ça dépend du jour. En fait, moi j'appelle ça une sorte des partis de centre extrémistes. En fait, c'est à vouloir tellement rester dans le centre qu'on n'a pas vraiment de vision claire sur aucun des sujets. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, on est à un moment historique où il faut avoir un avis. En fait, les gens veulent savoir, on veut faire des concessions, mais des concessions sur quoi? Et c'est le moment où, à mes yeux, c'est le moment pour la gauche israélienne de se réveiller et de se reconstruire. Je ne pense pas, et encore une fois, je ne suis pas objectif parce que je travaille sur la construction d'une force politique ces derniers mois qui va venir donc créer en fait la plateforme qui n'existe pas dans les partis de gauche aussi bien au Meretz qu'au Parti travailliste, qui est en fait une plateforme qui va venir de haut en bas, qui va venir des citoyens, une réflexion citoyenne où on ouvre, on repart à zéro et on prend les sujets essentiels de la société israélienne, on va dans la périphérie, on va parler aux jeunes, on s'occupe d'avoir des messages clairs sur les réseaux sociaux pour convaincre. Et en fait, ce processus, en fait, moi je sais, j'ai fait des campagnes électorales au sein du Meretz, donc je peux vous le dire, ce processus où on dit, en fait, on en a marre d'avoir raison, mais de rester tout petit, il faut sortir, aller dans la périphérie, il faut aller convaincre tous les jours de nouvelles personnes de se rallier à la gauche. Et ce mouvement-là, il n'existe pas, on est en train de le créer. Et moi, je pense que c'est la solution, parce que pour répondre à votre question sur l'état du Meretz et du Avoda, Meretz, moi, je fais partie de la Nala, de la direction.
La direction.
voilà, du parti. Et en fait, il n'y a absolument aucune idée de renouveau. Le Meretz a plusieurs millions de shekels de dettes qu'ils doivent rembourser à la Knesset vu qu'ils ne sont pas rentrés. Ils n'ont pas été élus, donc il y a des dettes énormes où je peux vous dire clairement, on ne revient pas, je pense, de quelque chose comme ça. Et au parti Avoda, avec Merav Mikhaeli qui ne veut pas lâcher son siège et les trois autres députés qui font leur maximum et qui sont vraiment, faut leur dire bravo, mais en fait, on n'a pas la politique aujourd'hui, on comprend, va passer dans les rues. Elle est dans les rues, les questions sont là, les gens veulent s'engager, les jeunes sont sortis et ont un avis. Et maintenant, le challenge qu'on a maintenant à gauche, c'est de savoir reconstruire, avec des technologies, avec quelque chose d'excitant, de nouveau, de qui va créer de l'enthousiasme et qui va ramener des nouveaux publics qui n'étaient pas de gauche, mais qui étaient d'accord avec nos valeurs, qui vont pouvoir se rallier à nous. Dans ce moment historique où, en fait, il faut savoir ce qu'on veut en fait, pour l'avenir d'Israël. Oui. On ne peut pas rester et buter en touche.
Tout à fait. Alors, dernière question, est-ce que vous avez un échéancier ou un calendrier temporel, du moins une indication à quel mouvement, à quel moment ou d'ici combien de temps ce processus pourrait se concrétiser et avoir une certaine visibilité ? Où on en est finalement pour l'instant qu'au tout début et
du mouvement
du mouvement que vous êtes sur lequel vous êtes en train de travailler.
C'est d'ici quelques mois. On est déjà plutôt établi. On a déjà commencé. Alors si on compare à ce que vous connaissez en France, c'est vraiment un peu le départ de la République en marche, le tout début de ce mouvement où on va aller parler aux gens, réfléchir ensemble. Donc on a commencé cette première étape de réflexion, d'engager les gens. On a plusieurs milliers d'inscrits, mais je peux pas en dire plus pour l'instant. Mais on ne perd pas de temps, on travaille très dur pour reconstruire la gauche israélienne et on a beaucoup de jeunes qui s'investissent. Et pour moi, ça, c'est vraiment une preuve qu'il y a un potentiel de renouveau, que les gens cherchent la plateforme, en fait, où avoir ce débat d'idées, où avoir cette façon de s'engager.
Eh bien, je vous remercie. Il ne reste qu'à vous souhaiter un bon travail et un plein succès dans cette reconstruction que beaucoup en diaspora attendent aussi, parce que si ce qui se passe en Israël est important, bien entendu, pour Israël ou pour le devenir de cet État et juif et démocratique, et non pas l'un ou l'autre, mais les deux en même temps, c'est également très important pour la diaspora ici. Parce qu'il est clair que la nature de l'État d'Israël aura des répercussions sur la vision que les Juifs auront d'eux-mêmes ici et la vision que les autres, que les communautés, que les sociétés environnantes auront de la communauté juive. Et donc, elle ne peut pas se désintéresser de ce combat qui se mène actuellement. Et c'est la raison pour laquelle nous incitons aussi la diaspora à se manifester plus qu'elle ne l'a fait jusqu'à présent. Même s'il y a des avancées en France, mais c'est encore insuffisant. Et donc à soutenir autant que faire se peut ce mouvement de renouveau de la société civile en Israël. Il ne reste à vous remercier, à vous souhaiter une bonne fin de fête à tous, à vous en particulier, Shana, en espérant que vous arriverez à trouver un appartement très vite à Tel Aviv.
Merci.
Voilà, c'est un appel implicite lancé aux auditeurs. Vous contactez directement la direction. Et bonne fête. Et donc, à nouveau, à dans 15 jours avec Uzi Meyerson. Merci. Lettre haute.
Merci.